Il est 6 heures.
El Cajet est un groupement d'achat créé en 2016 par des citoyens de Roubaix avec le soutien de l'Université populaire et citoyenne. Son but est de faciliter l'accès à des produits de qualité pour tous par le simple fait de se regrouper. Dans le cadre de ces activités, un club de lecture s'est créé, rencontre avec Véronique, Valérie, Philippe, Janine et Maryse du club de lecture de l'association El Cajet.
Progressivement, l'offre s'est étendue, le nombre d'adhérents a augmenté et maintenant nous sommes presque 600, si je ne dis pas de bêtises. Depuis 2 ans environ, nous avons acquis des locaux, c'est une ancienne école, suite à un incendie des locaux précédents. La Cajet est donc un magasin participatif où on vend majoritairement des produits bio, mais pas que, des produits locaux, le plus souvent en circuit court. Ce qui fait que les produits sont à des prix abordables en général. À côté du projet magasin, il y a différents projets qui se sont mis en place. Un atelier de réparation de vélo, un atelier couture, la marmite aussi. Et puis, depuis un an environ, je pense, une rencontre qui se nomme « Autour du livre ». C'est une sorte de club d'échange sur un thème donné, une fois par mois. Ce mois-ci, on a choisi le pain. C'est aussi dans le cadre d'un projet autour du pain qui a réuni des ateliers, des boulangers, etc. Et qui se terminera le 21 juin par une fête autour du pain.
J'anime en collaboration avec d'autres l'atelier autour du livre le deuxième mercredi du mois de 16h à 17h30. Ça fait un peu plus d'un an que l'atelier a vu le jour et on se rencontre tous les mois sur des thématiques. On choisit une thématique particulière à chaque fois et là on est sur la thématique du pain parce qu'il y a des ateliers qui ont eu lieu à la Cajet autour du pain et ce thème du pain se terminera le 21 juin par une fête de la musique, une fête autour du pain.
Peut-être revenir sur la création de ce club des lectures. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que j'ai toujours bien aimé lire et échanger sur les livres que je lisais, et prêter et échanger. Donc je me suis dit pourquoi pas la Cajet et ça a motivé des gens qui viennent régulièrement ou pas. On a un groupe WhatsApp et on communique avec le groupe WhatsApp, on échange des livres.
Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de l'atelier ?
L'atelier, c'est un lieu de partage d'abord. D'écoute attentive de ce que les uns et les autres ont découvert à travers une passion, le contenu qui les a intéressés. Un effort aussi d'avoir un peu de rationalité, mais pas trop. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est sur le pain. Et le pain qui est très politique et du plaisir d'être ensemble.
L'atelier autour du livre, ça rejoint un des principes de El Cajet, qui est de créer du lien. Et en fait, au travers de cet atelier, on peut créer un peu de lien avec des gens qui ont déjà une affinité pour la lecture, ce qui, en fait, au départ, ne semblait pas être un sujet de partage au niveau du projet El Cajet, qui est plus sur la nourriture, sur le côté plus végétal, etc., ou écologique. Moi, je suis contente de venir parce que ça me permet des fois de découvrir des livres que je n'aurais pas eu l'idée ou l'occasion de rencontrer. Moi, je pense, par exemple, quand on a eu le thème sur la cuisine, j'ai découvert un livre que j'ai adoré sur des dames qui venaient du Moyen-Orient, d'Iran, et sur des recettes de cuisine d'Iran. J'avais l'impression de sentir les odeurs. Et ce livre-là, je serais passée en librairie à côté, j'aurais pas forcément eu l'idée de le prendre, en fait. Et donc, au travers des échanges qu'on a eus, ça permet d'élargir son horizon.
C'est vrai que la lecture aussi développe notre imaginaire.
C'est vrai. Bon, là, on, Moi, je sentais vraiment les odeurs de cette cuisine en voyant les ingrédients. Bon, j'aime bien cuisiner aussi, j'aime bien faire de la pâtisserie. Et donc, moi, des fois, bon, c'est vrai que je lis des recettes et j'imagine tout de suite les odeurs, que la présentation. Et c'est, bon, c'est aussi de l'imaginaire. Et là, bon, c'est l'imaginaire pour notre gourmandise. Alors, ce qu'il y a aussi dans cet atelier, bon, le côté convivial, c'est qu'on partage un café, un thé, des fois des petits gâteaux, suivant la personne qui propose le partage, quoi. Donc, c'est vraiment un endroit où on se sent bien, quoi.
Je fais partie de la cagette depuis pas mal d'années. Je venais donc au café littéraire. C'est, je pense, un moment de convivialité, un moment de partage. Partage... on va dire intellectuel, mais aussi partage amical, et ça me paraît essentiel aussi, et puis de partager ce qui nous fait plaisir, et puis de découvrir des choses, découvrir des romans, des bouquins qu'on n'aurait pas lus éventuellement, et se rencontrer tout simplement. Donc je pense que c'est important dans le cadre de la cagette, de cette association, de se rencontrer aussi autrement qu'en venant faire des achats.
Roselyne, Christian, Dorian et Evelyne, adhérents du club de lecture de l'association El Cagette.
Je suis à la Cagette depuis 2 ans à peu près, et donc je participe au groupe autour du livre depuis un an et demi, 2 ans aussi, je pense. Enfin, c'est à peu près ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'on choisit un thème pour à peu près chaque séance, mais en général, la séance, on revient sur le thème précédent. Et ça fait une espèce de méli-mélo de discussion et de repartage de livres, d'impressions. Voilà. C'est très amusant aussi.
Donc, je suis adhérent à El Cagette depuis 1 an et demi. Et assez rapidement, je suis venu au groupe autour du livre. J'y viens d'abord parce que j'aime les livres, j'aime lire. Tous les jours, je lis. J'irai même toutes les nuits pendant mes insomnies. Je lis en fait pendant mes insomnies la nuit. Et des livres, évidemment, dans les magazines, des critiques de livres, on en trouve dans pas mal de magazines. Mais ce que j'apprécie de venir ici, c'est qu'en fait, les livres, ce sont des personnes qui en parlent. Et moi, ça me parle beaucoup plus, ça me donne envie ou pas de lire un livre quand j'entends une personne en parler. Donc les livres, il y a beaucoup de magazines qui en font des critiques, mais moi, je préfère entendre des personnes en parler. Voilà. C'est l'intérêt que je trouve à ce groupe.
Mais c'est vrai qu'on lit tous, pas tous de la même manière.
Oui, puis encore une fois, je pense que quelque chose qui est exprimé par une personne, pour moi, ça n'a pas du tout le même retentissement que quand je lis un article dans un journal. Voilà. C'est quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus convivial et beaucoup plus parlant pour moi. Et tout de suite, je vais savoir, quand une personne en parle, tiens, ce livre, est-ce qu'il va me plaire ou pas ? Voilà. Alors que dans les comptes rendus journaux, ce n'est pas une critique des journaux, hein, c'est très bien ce qu'ils font, mais c'est un peu plus froid, je trouve.
Je viens régulièrement, j'aime beaucoup l'état d'esprit, et puis j'ai participé, j'aimais bien faire l'accueil. Maintenant, je me trouve un peu vieille, donc place aux jeunes.
Est-ce que vous pouvez me parler du club de lecture ?
J'aime beaucoup les activités qui sont autour de l'épicerie et qui sont greffées petit à petit, et notamment le club de lecture. Je suis une grande lectrice et j'aime bien partager et j'aime bien entendre les avis des autres lecteurs. Ça me donne des envies de lecture et ça ouvre des horizons.
La lecture, c'est aussi ce qu'on absorbe tous les jours. Et on a échangé sur l'accès à l'information aujourd'hui, envahi par les réseaux sociaux et par la désinformation. Et donc, on a partagé entre nous le souci de trouver des sources d'information les plus objectives et pour accéder à la presse d'investigation et la presse qui, avant de penser à la presse d'opinion, voilà. Et donc, dans ce caractère-là, on a cherché des médias qui étaient hermétique à la publicité. Donc il y en a quelques-uns, et dont le 1, sans faire de publicité. Et donc on a partagé sur des contenus, et on a partagé aussi sur la façon de construire ce journal, qui est un petit peu original, qui est animé par Eric Fottorino, qui est l'ancien rédacteur en chef du Monde, enfin, et qui est très humaniste et pluridisciplinaire. Enfin, il y a un croisement d'un sujet par semaine sur des accès très intéressants, très croisés. C'est très enrichissant. Et moi, ça m'a beaucoup apporté aussi.
Nous étions avec les adhérents du club de lecture de l'association El Cajet à Roubaix. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus, 106,6 FM.
Vous écoutez Radio Campus sur 106,6.
Madame Flutio danse le tango tous les dimanches au Balajo. Hélas, aucun des hommes présents n'a ce petit grain de folie dans le sang. Elle s'est mise sur son 31 au cas où vienne l'Argentin, celui-là même qui dans ses rêves la prend par la taille et l'enlève. Mais pour l'heure, c'est avec Jean-Louis qu'elle va tournoyer toute la nuit. Et même s'il est plus petit qu'elle, au moins c'est un professionnel. De février, Madame Flutio a soupiré.
Elle se sentait lasse de tout ça. Ce rêve stupide qui ne colle pas, elle a commandé à Willy une double dose de whisky. Il a fait l'air étonné. Madame Flutio ne boit jamais. Elle a respiré un grand coup, regardé le verre avec dégoût. Et puis ses yeux se sont fermés. Elle a tout bu en une gorgée.
Ses joues sont devenues toutes roses. La grimace qu'elle fit fut grandiose. Elle commanda un autre verre qui l'amena à Buenos Aires. Madame Flutio était pompette. C'est alors qu'elle tourna la tête et vit entrer son Argentin vêtu en habit de marin.
Ses mains se mirent à trembler. Avait-elle perdu la raison ou trop forcé sur la boisson? L'Argentin, qui s'appelait Pedro, lui chuchota ces quelques mots.
Je cherche une femme pour danser et c'est vous qu'on m'a conseillé.
Puis il l'entraîna sur la piste, commanda une danse au pianiste au premier pas. Elle trébucha, Pedro éclatant l'enlaça, se laissa alors guider. Leurs deux corps légers se frôlaient. Elle se sentit l'âme d'une tigresse à l'assaut d'une forteresse. Il virevoltait magnifiquement. Elle avait le rire d'un enfant. Il la serrait juste comme il faut, comme on peut serrer un oiseau. Je suis si heureuse, criait-elle. Une larme glissa son oreille. Pedro, emmène-moi loin d'ici. Fais-moi danser toute la vie.
Alors, hein, un coucou. Salut. Dis donc, il est traité de la morte, hein, ce soir. Bon.
Still by so far. C'est désormais officiel, le Racing Club de Lens est propriétaire de son stade, le fameux stade Bollard. Jusqu'ici, propriété de la ville de Lens depuis 1973, racheté au IR du Nord-Pas-de-Calais pour le franc symbolique, il a été cédé à l'issue du conseil municipal extraordinaire du 21 mai dernier. Une délibération votée à l'unanimité. Cette vente devrait permettre à Joseph Hougourlian, propriétaire du club, de développer de nombreux projets, notamment commerciaux, et la multiplication de salons VIP devant permettre ainsi de pérenniser le club, sans changer l'âme du club sans erreur. Mais à combien le stade a-t-il été vendu ? Sylvain Robert, maire de Lens, nous donne enfin le vrai prix.
Le chiffre de départ, c'est 54,9. C'est le montant des domaines. Et après, on a pris certaines clauses. Et nous, ville de Lens, on aura une rentrée directe de 27 millions. Mais du côté du club, il y a encore à faire face à l'engagement qui était pris au moment de l'Euro 2016 de reverser une partie à la région, sur la base des 54,9. Donc c'est pour ça que les chiffres diffèrent entre ce que la ville va percevoir et ce que le club va verser. Puis après, il y a les droits d'enregistrement aussi qui sont assez conséquents. C'est pour ça que vous avez entendu plusieurs montants. Et le montant de base, le montant qui est cohérent et sur lequel la discussion est portée, c'est le 54,9.
C'est donc le troisième club français à être propriétaire de son stade. Pour l'homme d'affaires Joseph Hougourlian, c'est une somme importante, mais qui lui offre des perspectives de développement, notamment autour de l'enceinte.
Pour le club, je pense que ce n'est pas la meilleure affaire en termes d'investissement financier, mais d'un point de vue perspective de développement du club, je pense que c'était important d'avoir la propriété de notre outil de travail. Parce que, comme je le soulignais en fait au début du conseil municipal, enfin avant le conseil municipal, on doit faire des investissements. C'est à la fois des investissements nécessaires, des investissements de maintenance, et puis c'est des investissements de développement. C'est comme quand vous êtes locataire, est-ce que vous allez faire de gros investissements sur un bien qui vous appartient, sans doute pas. Donc ça, c'est le raisonnement de départ. Et puis après, effectivement, quand on se projette à long terme, on voudrait que Bollard vive. On voudrait que ça devienne un lieu de vie hors jour de match.
Attirer du public dans le secteur du stade Bollard, en dehors d'un rencontre de championnat, mais avec quel projet sur le long terme ?
On veut juste créer un endroit où les gens viendraient en dehors d'un jour de match. Donc on peut mettre un peu de... On peut imaginer certains types de commerce, notre boutique, de la restauration, peut-être même un musée. C'est assez facile de voir ce qu'on peut faire autour de ce type d'objet. Après tout, il y a ça un peu partout en Europe. Hein. Il y a dans cette réflexion une série d'idées pour créer un pôle d'attraction hors jour de match.
Pour Joseph Hougourlian, l'achat du stade Bollard doit permettre d'engendrer de nouveaux revenus pour compenser la perte des droits télé et de présenter des projets sur le long terme. C'était selon lui une nécessité.
C'est fondamental à long terme pour l'avenir du club. On va commencer avec des petits pas. Hein. On va essayer de effectivement créer des fan zones autour du stade. On va essayer d'augmenter les places VIP. Non pas aux dépens des autres places dans le stade, mais on a vu qu'il y avait encore de la place et qu'on pouvait faire des salons. Et on va faire une série d'investissements en fait, qui étaient aussi nécessaires, des investissements de maintenance, et qui étaient de toute façon à notre charge, donc il fallait les faire.
Dans les négociations de vente du stade, la ville de Lens a demandé des garanties pour que le nom du stade ne change pas pendant les 20 prochaines années, et que les supporters l'en soient aient l'assurance de ne pas voir le prix des places augmenter. Une exigence que le propriétaire a acceptée bien volontiers.
Du côté club, il n'y a jamais eu la tentation de changer le naming du stade, donc c'est quelque chose sur lequel on a cédé, et c'est la même chose pour le prix des places, pour tout ce qui sont, pour toutes les places qui sont économiques. Il n'y a jamais eu de velléité de la part du club. Ça serait d'ailleurs totalement, on se tirerait une balle dans le pied de manière assez spectaculaire. Là, on est un club, mais on a notre histoire, on a notre identité.
Ainsi, ni le stade, ni les tribunes ne changeront de nom au profit d'un naming pouvant apporter plus d'argent. Joseph Hougourlian se veut respectueux de la longue histoire du Racing Club de Lens.
Venir dans un endroit comme Lens et s'amuser à changer le nom du stade ou remonter le prix des places, c'est pas Stamford Bridge, hein, Bollard Davis.
Si le stade Bollard gardera son nom initial, la ville de Lens et le propriétaire du club l'ont quand même acté dans le contrat de vente. Bien que Joseph Hougourlian n'a jamais imaginé à poser le nom d'une marque commerciale sur le stade, comme cela existe ailleurs.
Nous, on cherche vraiment à développer le club d'un point de vue financier, d'un point de vue économique, hein, les revenus. Mais il y a des choses qu'on s'interdit de faire, et puis c'est tout. Ça nous semble naturel, et peut-être qu'elles seraient ça ne serait pas du tout problématique dans notre club. Elles ne le sont pas d'ailleurs à l'évidence, puisqu'il y a, plein de clubs qui ont choisi de changer le nom de leur stade. Ça a fait grincer quelques dents au départ, et puis finalement les gens s'y habituent. Mais nous, on pense que voilà, on est différent. À l'évidence, on est un club un peu différent sur certains aspects, peut-être pas tous les aspects, mais on a une identité très forte. Très forte.
La crainte des supporters en soi, et notamment le COP Sangior, était de voir le nouveau propriétaire développer des loges VIP au sein même de la tribune Marac. Qu'ils en soient rassurés, ce ne sera pas le cas, comme l'assure le maire Sylvain Robert.
C'est un engagement du club, mais on voit bien que changer l'âme de Bollard, c'est aussi changer la Marac. Ils ne sont pas du tout dans cette optique-là. Et quelque part, au regard de ce qu'ils souhaitent développer comme modèle, il faut garder aussi ce qui fait l'essence même, la force du club, donc de garder la tribu de Marac, le positionnement des supporters face à la sortie des joueurs. Donc c'est pas, on ne peut pas le contractualiser de cette façon-là dans l'acte. Donc on a pu, dans les discussions, aborder ce type de sujet, mais en se disant que c'était déjà une volonté du club sur les tribunes, sur le nom des tribunes, mais qu'en même temps, leur modèle reposait aussi sur une présence forte des supporters à la place où ils sont actuellement.
Autre inquiétude des supporters, que le propriétaire achète le stade pour mieux revendre le club. Habiller la mariée, comme dit un vieil adage.
Aujourd'hui, en tant que T0, vous n'avez pas de, entre guillemets, création de valeur sur acheter un objet qui est bien évalué, il me semble, par les deux parties. Donc après, si on fait des investissements, si ça devient un objet encore plus attrayant et qu'effectivement, certainement, ça apportera une valeur au Racing Club de Lens, mais ça se compte encore une fois en années. Moi, j'ai le sentiment que le club peut être attrayant d'un point de vue financier pour un acheteur s'il arrive à s'inscrire de manière pérenne dans en L1 et peut-être jouer l'Europe de temps en temps, ce qui est un peu notre plan. Mais aujourd'hui, tout ce dont on parle là en ce moment sur le stade est complètement submergé par le discours sur les droits télé. Donc, à supposer même que l'achat du stade soit quelque chose qui habille la mariée, elle est rapidement déshabillée par l'explosion ou la crise des droits télé, qui est une crise bien française. Donc, j'ai pas le sentiment, vous voyez, que ça change grand-chose pour un acheteur potentiel du club. Donc ça, c'est ma réponse un peu financière ou économique sur cette idée-là. Ensuite, moi, d'un point de vue personnel, j'ai toujours dit que j'essaierais d'amener le club le plus haut possible, sans, encore une fois, essayer de faire le pas de trop, sans essayer de me prendre pour ce qu'on n'est pas. Éviter, ça c'est une maladie courante dans le football, d'être la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Et que si un jour il y avait un projet plus attrayant que le mien, avec plus de moyens financiers pour le club, qui s'inscrive dans la durée et avec un propriétaire plus stable, moi je passerai le bâton sans. Enfin, je pense d'abord au club avant de penser à moi.
Toutefois, il faudra attendre quelques années avant de voir apparaître de nouvelles loges et les aménagements autour du stade Félix Bollard. C'était un reportage de Thierry Tempé pour Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Salut, c'est les Chasse-Patates sur Radio Campus. On vous donne rendez-vous le 4 juillet au Grand Sud pour le Grand Bal des cyclistes, la veille du départ du Tour de France.
Parti avec le sourire.
Venez découvrir le tout nouveau spectacle des Chasse-Patates qui vous emmèneront tutoyer les sommets avec des invités et des surprises plein la musette.
J'ai le moral dans les soquettes.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site du Taillet, letaillerproduction.com et sur ticketmaster.fr.
So I know what you want. But you know what I want too?
Savoir.
des larmes sur mon cœur en chantant comme un sutra. C'était prévu de longue date, un rendez-vous avec ma chatte. Au milieu, à quatre pattes, explorer son entrelac.
Allume le feu. Voilà. Sous la casserole. Et prends la queue.
nous encroûte, on nous déroute. Prévention, coûte que coûte, on risque la pire des maladies. Dès que l'on croque dans un casse-croûte, il faut se méfier de tout. Les microbes sont partout, dans l'air, sur terre, dans l'eau. Et même eux, les hôpitaux. C'est la loi du raisonnable, de la merde, il faut pas une vague. Aucun excès n'est toléré, c'est une question de santé. Il faut pas se coucher tard, ça fatigue, c'est dangereux. Il faut pas boire de café noir trop souvent, ça rend nerveux. À force-le, pour prévenir. On en oublie les plaisirs. On vit plus pour être heureux, mais pour mourir très 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 vieux. Les petits bonheurs de la vie pour être toujours en pleine forme, mais dans la monotonie. Il faut pas manger le gras, ça donne du cholestérol. L'alcool, n'en parlons pas, ça donne la cirrhose du foie. Il faut éviter la viande, elle est devenue trop folle. Les gâteaux, crème, chocolat sont à proscrire de nos repas. Il faut consommer des légumes et des fruits frais de saison. Au minimum 10 par jour, pour notre corps c'est très très bon. Il faut boire l'eau en bouteille pour ces oligo-éléments. Et du bifi, du sactite dans les yaourts parce que c'est important. À force-le, pour prévenir. On en oublie les plaisirs. On vit plus pour être heureux, mais pour mourir très 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 vieux. On se prive, on s'interdit. Les petits bonheurs de la vie pour être toujours en pleine forme, mais dans la il faut une assurance vie pour être heureux quand on sera mort. Il faut être une fourmi, faire plein d'économies. Il faut pas être cigale, il ne faut pas trop chanter. Il faut épargner pour sa retraite dès qu'on commence à travailler. Il faut pas sortir le soir, les nuits sont pleines de voyous. Il faut avoir des alarmes, les voleurs sont près de chez nous. Il faut pas prendre d'autostoppeurs, ce sont tous des serial killers. Faut pas parler aux inconnus qui nous abordent le long des rues. À force-le, tout prévenir. On en oublie les plaisirs. On vit plus pour être heureux, mais pour mourir très 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 vieux. On se prive, on s'interdit les petits bonheurs de la vie pour être toujours en pleine forme, mais dans la monotonie. Ça, pas de soucis, pas de cela. On finit par se demander ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. On vit dans la frustration, c'est comme une religion, sans Dieu et sans confession, mais avec ses interdictions. La prévention excessive se nourrit de nos phobies. Elle les transforme à sa guise, les utilise pour son profit. Elle mène à toutes les dérives jusqu'aux guerres de prévention. Elle nous prend, on se le vise, vraiment tout se tourner. À force-le, tout prévenir. On en oublie les plaisirs. On vit plus pour être heureux, mais pour mourir très 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 vieux. On se prive, on s'interdit les petits bonheurs de la vie pour être toujours en pleine forme.
Bonjour, dans le cadre de Découvrons un village, je suis dans la commune de Saint-Yne, un village situé au sud de Compiègne dans l'Oise. Nous sommes aujourd'hui avec Kevin Gradpanche, le gérant du salon de coiffure de la commune qui a pour nom Augassage. Le salon a ouvert en juillet 2023. Quelles ont été, Kevin, les différentes étapes de création de votre salon?
Alors moi je suis en reconversion professionnelle, alors du coup je viens de, on va dire, un petit peu loin, parce que le métier de la coiffure ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Moi j'étais dans le bâtiment, j'ai commencé dans le bâtiment, après j'ai bossé un petit peu en événementiel. J'ai commencé la coiffure par simple plaisir, couper mes neveux, les copains, m'amuser avec une tondeuse. Et j'ai eu vraiment du plaisir à faire ça. Par la suite, je me suis laissé pousser la barbe et je me suis permis de découvrir les salons de coiffure, les barbeurs, les différents barbeurs. J'ai voyagé, j'ai testé de différents barbeurs suivant où j'allais. Je suivais sur des comptes Instagram et des vidéos que je regardais, que je m'aidais pour apprendre la coiffure, justement, la coiffure, le métier du barbier. Et en fait, de fil en aiguille, je coupais de plus en plus de personnes. Mes frères, mes potes, le pote du pote. Et tout ça, ça allait sur un apéro, une coupe de cheveux. Hein, et puis, ça a devenu vraiment une passion. Et les copains, ils m'ont poussé un petit peu à dire « Pourquoi tu ferais pas ça de ton métier ?» Sauf que le métier de coiffeur, c'est quand même quelque chose de compliqué parce qu'il faut quand même avoir des vraies bases et pas que du autodidacte. Parce qu'en étant autodidacte, on apprend des choses, mais on n'apprend pas tout. Il faut vraiment quelque chose de structuré, des coupes quand même qui ressemblent à quelque chose forcément. Parce que tout le monde croit que un coup de tondeuse, c'est assez simple et puis c'est rapide, mais non, c'est pas comme ça. J'ai commencé à me retourner vers Pôle emploi et d'intégrer en fait la formation justement en coiffure. Sauf qu'il fallait que je repasse mon diplôme, mon CAP de coiffure. Ça a été compliqué, ça a été vraiment une période compliquée. J'ai mis un peu plus de 3 ans et demi à essayer de trouver quelque chose. J'ai commencé par une calotte lichique, j'offrais une coupe de cheveux à celui qui reversait n'importe quoi. Et j'ai réussi à récolter un petit peu d'argent comme ça. J'ai réussi à placer de l'argent pour payer mon diplôme. Et au final, vu que j'avais placé un peu d'argent économisé pour payer mon diplôme, ma conseillère pour l'emploi m'a aidé aussi à trouver la formation et je me suis retrouvé au Greta. J'ai fait un an de formation à Beauvais pour passer mon CAP et je suis dans mon BP en candidat libre et voilà, après ça m'a emmené à ouvrir mon salon.
Vous disiez tout à l'heure, vous avez voyagé pour aller à la découverte de plusieurs barbiers. Vous pouvez préciser un petit peu ?
J'ai commencé des petits voyages tout bêtes. Au départ, j'allais sur Paris, forcément des barbiers assez connus. Et après, j'ai été à Lisbonne, à Porto, au Portugal, parce que je voyageais pas mal au Portugal et j'aime bien ce pays. Après, du coup, j'ai été en Espagne, dans des barbiers en Espagne. J'ai été en Belgique et j'ai été même en République dominicaine. Tester des barbiers là-bas et on découvre des nouvelles façons de faire et je trouve ça hyper chouette d'être dans un métier mais que personne n'a le même travail et ça c'est, je trouve que ce métier-là c'est de la découverte, c'est de l'art, c'est extraordinaire.
C'est vrai. Donc vous avez appris de chacun ?
De chacun, j'ai pris un petit peu de chacun, j'ai été dans des barbiers et en fait, y a des trucs qui me plaisaient et des trucs qui me déplaisaient. Forcément, dans chaque barbier, c'est différent. Mais ce que je retenais qui était bien, je le retenais. Et à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, c'est ce que j'essaye de faire dans mon barbier, dans mon salon de coiffure barbier ici actuellement à Saint-Tine. C'est ce que j'essaye de reproduire, en fait, que les bonnes choses que j'ai retenues de tous les barbiers que j'ai fait. J'essaye de retenir que les bonnes choses et de pratiquer sur mes clients que les bonnes choses.
Revenons sur le salon au gassage. Est-ce que vous avez réalisé avant une étude de marché ou établi un business plan ?
Alors, j'ai travaillé un petit peu à Senlis, en fait, dans un salon de coiffure c'est là où j'ai commencé, dans Intermarché. Et c'est vraiment de la coiffure femme. La patronne du salon de coiffure, elle me faisait faire les hommes parce que, en fait, elle a trouvé mes techniques hommes différentes de ses coiffeuses. Et en fait, moi, je suis originaire du coin. Je suis originaire de Saint-Sauveur. Et en fait, j'ai pas fait du tout d'études de marché, j'ai rien fait. Je me suis lancé tête baissée. Et je suis arrivé ici tout hasard parce que j'étais jeune et je passais régulièrement devant le salon. Maintenant actuellement le salon, mais avant c'était deux rideaux de fer qui étaient baissés. C'était juste deux murs avec rideaux de fer baissés. J'avais fait la rencontre du propriétaire dans le dernier bar qui était ouvert, le dernier commerce de Saint-Tine. J'avais rencontré là-bas et je savais justement que c'était à lui. Un jour je suis arrivé, j'ai frappé à sa porte. Quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, j'ai frappé à sa porte et je lui ai dit, je lui ai expliqué que ce que je voulais faire et s'il voulait bien me louer son local. Et il a rigolé, il m'a dit il faut voir. Il me dit tu veux voir déjà ? C'était vraiment un hasard parce que il a eu de la volonté à m'ouvrir le commerce et tout. Et je suis arrivé, Et j'ai vu le local abandonné dans le temps. Le local m'a correspondu direct. Et je me suis dit, c'est pour moi et ça sera nulle part ailleurs, ça sera ici. Serge, le propriétaire, m'a filé un grand coup de main pour l'ouverture, m'a aidé, m'a poussé. Et je remercie Serge d'ailleurs, franchement, pour le local, pour l'opportunité qu'il m'a donnée, pour la confiance qu'il m'a donnée, parce que c'est pas facile. Et me revoilà à Saint-Tine, hein, aujourd'hui. Ça va faire 2 ans au mois de juillet. Et c'est une activité qui est en. Ça grossit. J'espère bientôt embaucher et trouver une personne adéquate et embaucher. Ça prend de l'ampleur et j'adore.
Est-ce que le maire de la commune, M. Jean-Pierre Desmoulins, était favorable à l'ouverture de votre salon ?
Alors, je suis arrivé avec au début, j'ai présenté quand même mon projet. Alors, il a tout à fait accepté mon projet, il a adoré même, parce que il y avait plus de commerce. Alors, j'allais être un nouveau commerçant qui allait arriver. Il m'a dit, si tu veux t'installer en tant que coiffeur barbier, tu peux y aller. Et si je peux t'aider, je t'aiderai avec plaisir. Et voilà, on est là maintenant. Hein. C'est extraordinaire.
Vous écoutez actuellement l'interview de Kevin Gradepanche, le créateur et le gérant du salon de coiffure de la commune de Saint-Tine, qui a pour nom Au Gassage. Qu'est-ce que ça fait d'être l'un des rares commerces de la commune ? Ils sont très peu à Saint-Tine. Vous êtes fier ?
Ah bah, bien sûr que je suis fier. Ça redonne un peu de vie à Saint-Tine, ça donne un peu de joie. Moi, j'ai des enfants qui passent, qui retournent de l'école, que je coiffe, ils viennent me dire bonjour, ils viennent prendre une petite sucette, et j'adore. Et puis ça redonne un petit peu de courage à la population et de rouvrir des commerces. D'ailleurs, il y a justement les petits commerces, l'esthéticienne et puis la diététicienne qu'au départ qui travaillaient vraiment chez eux et que maintenant ils ont quand même ouvert un local qui se développe, que j'espère qu'ils vont grandir aussi. Être plusieurs, pouvoir profiter de plusieurs commerces en Saint-Tine, ça ferait redonner vraiment de la vie à Saint-Tine et ça serait cool. Ouais.
Quelle est votre clientèle, Kevin ?
Alors, j'ai vraiment ma clientèle, elle est vraiment mixte. Il y a vraiment. J'ai des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, j'ai des messieurs, des retraités qui viennent. J'ai un monsieur qui est venu ce matin, il avait 87 ans. Il a sa petite habitude de venir chez moi. Et ici, c'est convivial, c'est familial. Alors, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a personne qui a refusé. Nous, on veut juste du sourire, de la bonne humeur et c'est parti.
Est-ce que vous envisagez dans le futur de coiffer les femmes ?
Je sais coiffer les femmes, je pourrais m'occuper des femmes, mais en fait c'est vraiment un choix personnel que j'ai fait ici, parce qu'on est dans un esprit quand même homme, typiquement homme ici, et je veux que vraiment l'homme se sente bien, qu'il prenne son moment de joie, de plaisir de venir entre hommes, pouvoir discuter, avoir des discussions d'hommes, de rigoler, de sortir des blagues sans être jugé. Et sans rien avoir, et c'est vraiment pour ça que je coiffe pas les femmes, mais je pourrais coiffer, peut-être dans le futur, peut-être coiffer des femmes, ça se pourrait.
Certaines habitantes de la commune le souhaiteraient en tout cas.
Je sais, j'ai beaucoup de demandes, mais comme j'ai dit, je préfère vraiment réserver le petit coin pour les gars et pour qu'ils gardent leur moment à eux et leur moment de plaisir. Je veux pas que ça soit quand même de la distribution ici. J'ai ouvert un salon de coiffure vraiment homme et j'ai des produits que je choisis moi-même. C'est vraiment un coin familial. J'ai pas envie de vendre des produits qu'on peut retrouver en grande surface, tout ça. C'est pour ça que j'ai des produits professionnels. Je fais des événements qui se passent, le mondial de la coiffure, tout ça, pour essayer de trouver des nouvelles choses pour ma clientèle, pour leur plaisir. Parce qu'on a beaucoup de salons femmes, ils ont leur moment, ils ont leur truc, ils ont les salons de massage, ils ont les esthéticiennes. Et là, eux, ils ont un peu plus de ça. Les hommes, ils prennent un peu moins soin d'eux. Alors, le moment de chez le barbier, chez le coiffeur, c'est des moments un peu indiscrets. Je leur touche le visage, tout ça. Et c'est pour ça que je veux vraiment leur garder leur moment à eux, entre hommes, et c'est tout.
On pourrait parler un peu de la décoration de votre salon au niveau des affichages. On est dans le rétro un petit peu.
C'est ça, exactement. Alors, la déco, on va dire, ça a été rapide parce que je me suis lancé avec mes propres moyens. Alors, j'ai eu Serge qui m'a offert le local, on va dire, sans bas de porte, sans rien. Je suis arrivé, j'ai fait une création de local commercial, d'un commerce. J'ai fait une création, alors du coup, j'ai vraiment un départ de zéro. Et on va dire que les finances, j'ai financé avec mes propres moyens. J'ai eu aucune aide à rien du tout. J'ai vraiment fait tout de mes propres moyens. Et avec les connaissances que j'avais, mes propres connaissances du bâtiment, j'ai eu beaucoup de récup, que je me suis permis de faire de la récup. Et j'ai eu des trucs j'avais récup, que je gardais, qui me tenaient à cœur, que je gardais, qui aimaient bien, les petites décos. J'ai par exemple là, les plaques, ça c'est mes voyages, c'est ça les plaques des voitures, pour garder quand même l'esprit, parce que j'adore les voitures, moi j'aime tout ce qui est moteur, voiture, moto, dès qu'il y a un moteur, c'est mon élément. Après toute la déco, c'est des cadeaux, c'est les copains qui ramènent, c'est les clients qui ramènent, dit ah bah je suis venu dans ton salon, j'ai vu qu'il y avait ça, du coup je t'ai fait un petit cadeau et tout. Et en fait on a, au début il y avait pas grand chose, on va dire il y avait quelques décos, mais c'était du vite fait. Et puis de fil en aiguille, en fait le salon il se remplit de choses, de personnes et d'autres. Et en fait, les objets restent et forcément, les personnes viennent aussi et découvrent des nouvelles choses. J'adore. C'est le côté que mes clients et mes amis me ramènent des trucs, pensent à moi et m'oublient pas. Et j'affiche par fierté tous mes canaux.
Les Harley Davidson sont à l'honneur aussi ici.
Ah bah Harley Davidson, je roule en Harley Davidson, alors forcément. Et puis ma fille s'appelle Harley. On a le côté motard ici, j'ai pas mal de motards. En fait, on a notre barbershop, mais on se base quand même sur quelque chose. Déjà, on va essayer de cibler une certaine clientèle. Après, j'ai beaucoup d'amis qui font de la moto, tout ça, qui est dans le monde Harley Davidson, voiture américaine et tout ce qui s'en suit. Alors, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'Harley Davidson dans les alentours.
Quels sont vos projets pour 2025 ou pour les années qui suivent ?
Alors, les projets, d'embaucher une personne, de peut-être trouver même pareil un petit jeune à lui apprendre mon métier, un apprenti. Vu que je suis instable et je ne sais pas m'arrêter de travailler, cette année, en début d'année, j'ai racheté une pizzeria avec la mère de ma fille et c'est parti, on relance dans une nouvelle aventure. Pareil, faire la même chose, en fait, on va faire ce qui manque ici, en fait. Alors du coup, là, la restauration, c'est ce qu'on va faire. On va ouvrir une petite brasserie pizzeria un petit peu dans l'italien. Je mange pas de pizza dans les alentours. Je mange pas de pizza parce qu'il n'y a pas la pizza que je trouve adéquate à mon goût. Et là, je vais essayer de produire, en fait, une petite pizzeria avec vraiment ce qui nous manque, en fait, avec ce que j'ai envie, de la propreté, de l'hygiène avant tout, parce que moi, je suis quelqu'un de super... comme tu peux le voir dans le salon, c'est toujours un salon propre, c'est toujours clean. Alors la pizzeria, c'est pareil, je voudrais un truc vraiment propre. Et puis des bonnes pizzas italiennes, quoi. Des bonnes pizzas Napoli, ce qui nous manque ici.
C'est vrai, ça sera dans la commune ?
Non, ça se trouve à Béthisy-Saint-Pierre.
Bon courage pour ce projet, et puis bravo pour votre réussite déjà depuis 2 ans ici dans la commune, Kevin.
Merci beaucoup, c'est un plaisir. Et puis j'espère que ça va continuer dans cette lancée et qu'on ira un peu plus loin. On va essayer d'aller faire au max.
C'était Yann Barré pour Radio Valois de Mulsien. Dans le cadre de Découvrons un village, j'étais au Gassage, le salon de coiffure de la commune de Saint-Yne, en compagnie de Kevin Gradpanche, le créateur et le gérant de ce salon.
Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Ah, 10 heures par jour, hein. Au moins.
Bah attends, bonhomme, 10 heures, c'est conseillé. C'est normal.
Oui, j'écoute environ un minimum de 10 heures par jour, hein. C'est nécessaire.
Oui, effectivement. L'écoute de Radio Campus est bénéfique pour la santé. Ce sont les médecins radiophoniques qui l'ont prouvé. Le 106.6 ou le www.campuslille est bénéfique pour votre sourire. Alors, faites comme eux, écoutez Radio Campus.
À mes flancs, sans savoir, j'ai des hameçons qui chopent des morceaux du passé. Et je traîne mes lignes, mes harpons, mes crochets, et je traîne mes regrets. À mes flancs s'accumulent encore bien frétillant les choix que je n'ai pas faits. Les photos, les cahiers, les amours, les enfants, les vies que j'ai rêvées. À mes flancs, je suis flanqué de toute la panoplie des années. Ça m'angoisse, je passe plus dans les portes des bistrots sans forcer les côtés qui dépassent. à mes flancs. Lorsque je me retourne, ça veut plus, ça peut plus, ça suit plus. Et ça me taille une culotte de cheval en forme de regret. Et c'est laid. J'ai l'encyclopédie en 80 volumes des horreurs que j'ai bavé. Je le décompte des fois où j'ai dit que j'étais nul, où je me suis pardonné. Il y a même un sudoku que j'ai jamais fini parce que j'arrivais plus. J'ai des casseroles au cul qui font tellement de bruit quand j'avance, que j'avance plus. J'ai un monstre qui fume, j'ai une louve qui dévore le monstre qui fume. J'ai déjà quelques morts, j'ai des plumes qui m'échappent, des passions qui s'endorment, des envies toujours inassouvies. J'ai des femmes meurtries en pagaille qui sont toutes moi, qui me sortent des yeux, qui me lâchent plus les entrailles. J'ai des hommes blessés qui me restent à gripper, qui supplient que j'arrête de les aimer. J'ai des orgasmes bides qui me le laissent vide et avide et béant. J'ai du sang circulant tous les mois s'écoulant à mes flancs recyclés, recrachés. À mes flancs, j'ai un cri poussé comme un esclave des langues déjà inventées. À mes flancs, je travaille des pensées empruntées, triomphant, puis jetées. À mes flancs, j'ai un rêve, mais ça c'est moi qui le tiens. Je le lâche pas, je le lâche pas. Ça doit vouloir dire ça, vivre j'en sais rien, ça fait peur, mais je lâche rien. À mes flancs, j'ai un rêve, mais ça c'est moi qui le tiens. Je lâche rien, je lâche rien. Ça doit vouloir dire ça, vivre j'en sais rien, ça fait peur, mais je lâche rien.
Daje mu czaszczu drużby, do syna pier, i do typeła mu pesu ja.